WWDC en une demi-heure. Ouais, ce soir, on a décidé de faire les jingles à la bouche. Donc, en tout cas, les annonces. Donc, comme vous venez de l'entendre, on va faire le résumé de la WWDC en une demi-heure. J'ai avec moi Mathieu Blanco de MacJT. Rebonsoir, car on s'est déjà vu pendant toute la keynote.
Rebonsoir et je resalue les 146 personnes qui nous écoutent en direct sur Ustream ainsi que sur le site podradio.fr, ça fait quand même pas mal de monde.
Et qui, par définition, ont déjà entendu ce qu'on va dire. Donc c'est d'autant plus intéressant. Gugus, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
Responsable
470 personnes.
Voilà, responsable chronique tech au sein de Pod Radio, donc les petites émissions justement d'une demi-heure. Donc tu es dans ton élément vu que c'est ton créneau. Et nous avons aussi avec nous Angelus Yodasson, bonsoir.
Bonsoir.
Qui lui est donc le responsable des news au sein de Pod Radio. Et pour ceux qui ne me connaîtraient pas, au cas où Mathieu Blanco voudrait diffuser cette émission, je suis Phil Good, responsable du débat d'Octet, le débat donc au sein de Pod Radio. Nous allons donc prendre la keynote à l'envers, c'est-à-dire nous allons commencer par la fin et par l'information qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire le nouvel, entre guillemets, et là je fais déjà du spoiler, le nouvel iPhone. Donc, la WWDC, je vais faire quand même un peu durer les choses. La WWDC, comme vous le savez, c'est la conférence des développeurs qui a lieu chaque année. Justement, Gugus, si au lieu de taper dans le clavardage, il serait bien que tu le dises en audio. Donc, s'il te plaît, je
si
te laisse la parole.
Je vais t'éviter de pédaler dans la semoule, c'est-à-dire que la WWDC et donc la Worldwide Developer Conference, c'est la conférence à laquelle Apple convie tous ses développeurs, toute sa communauté de développeurs, pour parler un peu des nouvelles technologies qu'ils vont leur annoncer, leur mettre à disposition pour qu'ils puissent faire de superbes applications pour le Mac, l'iPhone et l'iPhone.
Et c'est tout.
Voilà, pour l'instant c'est tout.
Donc là, on s'attendait à beaucoup plus de choses, c'est-à-dire on s'attendait à une sortie très rapide de Snow Leopard, on s'attendait à une nouvelle suite logicielle professionnelle qui sont Final Cut et compagnie, on s'attendait à un nouvel iPhone avec un nouveau design, etc. Et au final,
Mathieu, hop, je te conseille de ne pas faire trop de spoilers, gardons quand même un peu de suspense. Donc commençons par ce qui s'est passé à la fin de la keynote, donc les iPhones. Et je vais laisser la parole à Angelus, au hasard.
Oui, au hasard.
Angelus, donc annonce-nous qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau sur ces iPhones.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Principalement la vitesse du processeur qui est beaucoup plus rapide, donc ça nous promet quand même deux meilleures performances. Le réseau 3G qui passe en 7,2 mégabits, donc qui serait un peu boosté par rapport à celui qu'on a déjà dans les 3G actuels. La grande nouvelle, c'est l'amélioration de l'appareil photo qui passe en 3 mégapixels, et au-delà de ça, la vidéo qui s'installe avec un mode VGA, enfin un autofocus, enfin une balance des plans. Et bien sûr un petit éditeur qui permettra de faire du partage de vidéos sur YouTube, sur bien sûr MobileMe parce que ça reste interne à Apple, et aussi par mail. Par contre là, par mail, il ne doit pas falloir pouvoir envoyer des grosses vidéos, mais enfin bon, c'est toujours possible.
Peut-être la limitation de 10 mégas avec peut-être une compression possible.
Voilà, donc ouais. ça sera plus peut-être du gros MMS que véritablement de la vidéo, mais enfin déjà du YouTube et du MobileMe en l'absolu, c'est déjà pas mal quand même.
Surtout que tu peux partager du coup le lien vers ta vidéo sur MobileMe, donc du coup ça peut être pratique.
Voilà, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de le partager par ce système-là sûrement.
Pour la suite, et des grosses nouveautés sur iPhone, il y a le mode très attendu, mode modem, qui vous permet d'utiliser votre iPhone comme un modem avec votre PC ou votre Mac. C'est-à-dire que du moment que vous avez un iPhone, vous pourrez vous connecter à Internet avec votre ordinateur portable, où que vous soyez dans un parc, à la terrasse d'un café, etc., à partir du moment où vous êtes sous couverture 3G.
Voilà. Alors ça, c'est une nouveauté de l'OS 3.0 qui sera disponible pour tous les iPhones gratuitement et les iPod Touch moyennant une dizaine de dollars dans une semaine, donc le 17 juin si je ne dis pas de bêtises. Et concernant ce mode modem, il y a eu un accord passé avec avec
Orange.
beaucoup de avec beaucoup de d'opérateurs dans le monde, dont Orange et SFR. Par contre, après, on ne sait pas s'ils le feront payer. Je pense qu'ils n'en manqueront pas une, donc on aura sûrement un mode modem payant ou non, à voir après selon la
Tout ce
concurrence.
qui se rajoute, hein, sur le forfait.
Voilà, oui, sûrement.
Vu
Et les autres
qu'apparemment,
petites.
oui. Pardon, vu que
Pardon.
Gugus faisait la différence, je suis désolé. Vu que Gugus faisait la différence entre justement ce qu'il y a dans l'iPhone 3.0 et ce qu'il y a dans l'iPhone 3GS, vu que c'est son nom, peut-être il faudrait commencer, aussi bizarre que ça paraisse, par les exclusivités qu'il y a sur le 3GS, les choses que vous n'aurez pas en passant au firmware 3.0 sur votre iPhone 3G, entre guillemets, maintenant standard.
Oui, alors en tout cas, ce qui a été montré, donc bien sûr, on n'aura pas la lecture de vidéo via ce qu'on a enregistré, je pense. Alors, même s'il y a une légère édition, il me semble, ou quasiment, enfin, peut-être une légère édition de vidéo, donc on ne peut pas avoir ça vu qu'on ne pourra pas prendre de vidéo avec les anciens iPhone 3G. Ils ont aussi annoncé une application de contrôle par la voix, donc Voice Control. Après, je ne sais pas, c'est normalement logiquement possible de le mettre sur les anciens iPhone 3G. Alors, est-ce que ça sera une
Ils sont capables
exclusivité?
de le bloquer pour faire
Ouais,
l'exclusivité.
je ne sais pas. Après, c'est comme tous les blocages qui. Enfin, c'est assez théorique comme blocage parce que ça peut quand même vraiment se débloquer assez facilement. Mais pour l'instant, ça a été annoncé dans la présentation de l'iPhone 3GS. Donc, voilà. On a aussi une application de compas. Non, c'est pas un compas comme on dit ça en français, je ne
Boussole,
sais
une
plus.
boussole,
Une
monsieur.
boussole, merci. Une boussole, une application de boussole donc qui utilise. Je ne sais pas ce qu'elle utilise.
Elle utilise
Alors après, il dit.
sûrement un truc magnétique quelque part, en un sens.
Je sais pas si c'est oui, je pense que c'est. Oui, ça doit de toute façon être magnétique, mais en tout cas, ils disent que
Bah,
c'est
ça paraît
un.
logique. Bah, pour une
Une
boussole,
boussole.
oui.
Ils disent built-in digital compass, donc une boussole
Digital.
intégrée digitale.
Ce qui est vraiment
Alors.
intéressant, c'est que quand on va utiliser par exemple Google Maps, Google Maps va se présenter de la manière dont on tient son iPhone. C'est-à-dire si on tourne sur soi-même, on
Oui,
va
ça va
avoir
orienter la carte
Google Maps.
sûrement.
Voilà
Voilà,
exactement ce qui. Mais généralement, c'est un truc dans lequel je me perds souvent, c'est quand j'ai une carte devant moi, je sais généralement pas dans quel sens je suis et je dois faire quelques rues avant de me rendre compte que c'est dans
Ben
quel
ouais, c'est
sens
ça. C'est
j'essaie
vrai
de
que jusqu'à
passer.
présent, fallait marcher un peu pour savoir
Voilà, donc ça.
où se déplacer le point bleu pour savoir dans quel sens on était.
Ça dépend.
Exactement.
Ceux qui ont un sens de l'orientation n'auront pas besoin de l'iPhone 3GS et ceux qui en ont pas auront besoin de la boussole.
Laisse continuer à regarder la mousse sur les arbres.
C'est ça. Donc je pense que ce sera une exclusivité 3GS. Après, je crois que c'est tout pour ce que j'en ai vu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter?
Non, je crois que c'est à peu près tout aussi.
Oui, voilà, à part les
Mis à part
nouveautés.
le voté nouveau processeur deux fois plus
Voilà, c'est
rapide.
ça.
Peut-être la 3D, vu qu'à l'intérieur les performances 3D seront différentes. Est-ce qu'on va avoir des jeux qui vont sortir exclusivement pour l'iPhone 3GS parce qu'ils vont exploiter l'OpenGL et les nouvelles technologies? Ça, seul l'avenir nous le dira.
Voilà.
Donc sinon, au niveau des nouvelles fonctionnalités on va dire les nouvelles fonctionnalités notables de l'iPhone 3G, parce, de l'iPhone 2, pardon, du firmware 3.0, on sent qu'on sort juste de la keynote. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on ne peut pas toutes les faire. Donc
Le vidéo, partage de vidéo beaucoup plus rapide, le contrôle vocal, le copier-coller, le support des MMS et enfin le support des MMS et mode paysage, le mode modem, puis après quelques petites des améliorations,
La recherche via
la recherche.
Spotlight dans tout le téléphone.
Voilà. Sinon, je crois que c'était à peu près
Ouais,
tout. Il y
c'est
avait des
surtout
fonctions de
des
secouage, des
nouveautés
choses
pour les
comme ça.
développeurs en tout cas.
Ouais, après c'est beaucoup d'améliorations pour les développeurs et des nouvelles possibilités d'application comme ils l'ont montré avec TomTom et etc.
Donc
Je sais
sinon,
pas
oui, c'est
si
vrai
la.
que l'application TomTom, j'aimerais bien qu'on passe un petit moment dessus, parce que quand même, dans l'idée, c'est une des choses qui manquait cruellement au... tiens, on me fait signe à 21h50 que l'Apple Store vient d'ouvrir en ligne.
Ah, ça fait,
Donc
il est
le...
ouvert depuis 21h si vous voulez
Ah
aller
d'accord.
dépenser quelques euros.
C'est quand même un des trucs qui manquait cruellement. Ça avait un GPS et on n'était pas capable de l'utiliser dans la voiture. C'est un peu comme le copier-coller, c'était dommage, quoi. On attendait que ça. C'est encore une chose avec le copier-coller qui fait en sorte que l'iPhone commence à prendre une certaine valeur en tant que smartphone multi-usage, quoi. On va dire. Et qu'il pourra remplacer de plus en plus d'appareils.
Voilà,
Oui,
c'est-à-dire que.
c'est là qu'il va en fait gommer à peu près tous les défauts que les gens pouvaient encore lui imputer. Et donc, en gros, le copier-coller, le MMS, les modes paysage, le mode modem, ben
Ouais, je
ça
pense.
gomme vraiment les principaux défauts, quoi.
Ouais, je pense pareil, c'est-à-dire toutes les remarques qu'on avait pu faire à l'iPhone quand il était sorti fraîchement, l'iPhone 3G, sont corrigées avec cette mise à jour. Maintenant, je suis pas sûr que c'est ce qu'on attendait vraiment, mais au moins c'est une belle amélioration.
Enfin bref, comme nous devons durer 30 minutes, nous devons être rapides et ne pas faire trop d'analyses. Ça sera sûrement le cas d'un débat d'octet, justement, auquel j'en profite pour inviter Mathieu Blanco si il a de la disponibilité.
Pas de souci.
Et ben ça sera avec plaisir. Je souhaite qu'on passe à la deuxième grosse annonce de cette keynote et on monte en puissance hein, avec Snow Leopard. Donc je laisse au plaisir de celui qui voudra pas vraiment de la parole en premier. Pour nous présenter sa nouveauté favorite, donc par exemple Mathieu, ta nouveauté favorite sur ce Snow Leopard.
Ma nouveauté favorite, c'est le prix.
C'est ce que je voulais
Ouais,
dire.
j'avoue, c'est bon point, effectivement.
C'était
C'est-à-dire
pas pour toutes
bien.
les personnes qui disposent actuellement sur leur Mac 2 du système Léopard,
Donc tout le
ils
monde,
pourront
globalement. Hein.
quasi globalement tout le monde, ils pourront migrer sur la nouvelle version pour visiblement 29$, donc ce sera certainement 29 ou 25€. Pour la version un seul ordinateur, et si vous voulez le Family Pack, ce sera 49$, donc très fort à parier, 49€, ce qui est vraiment, ce qui est, si j'ai envie de dire, c'est donné pour un système de cette qualité.
Oui, voilà, c'est vrai qu'après, bon, on ne veut pas encore casser du bois, mais quand on compare au prix des autres OS, sachant que dans les autres, il y en a un gratuit et un payant, vous faites la comparaison vous-même, ça vous évitera de nous faire encore des ennemis, mais voilà, c'est donné, quoi, c'est même pas 10 fois moins cher que les autres, quoi.
Après, c'est vrai qu'on va pouvoir fleurir sur Internet des conditions comme quoi il faut avoir Léopard, mais qui n'a pas acheté un Mac récemment et n'a pas Léopard dessus?
Voilà. Et puis même qui avait un Mac et n'a pas upgradé à Léopard aussi. C'était le cas pour mon MacBook par exemple. Il était sur Tiger et
Il n'avait pas donné un chiffre au départ sur le nombre. Non, ils avaient donné le nombre d'utilisateurs de macOS 10 et pas le nombre d'utilisateurs de Léopard comme il faisait
ah bah
avant.
apparemment là j'ai eu le malheur de dire que tout le monde était sous Léopard, le chat est en train de s'emballer avec j'ai Tiger. Et il y en a un
Ailleurs.
qui nous
D'accord,
rajoute
ok.
le problème c'est que c'est trop cher le Mac. Ah, justement, je tiens à renvoyer vers un débat d'octet où justement Mathieu était là, où on
Non,
parlait du
puis
prix des Macs.
même si le Mac est cher dans l'absolu, par rapport, enfin, on peut dire que en valeur brute, c'est cher. Le prix des OS comparé, par exemple, à Windows, on va finir par le dire, c'est quand même ridicule, quoi.
Ah bah disons
Et
que
le
pour le
truc
prix
qui est
de.
donné chez Mac, c'est l'OS, alors que la principale différence, vu que maintenant le hardware
C'est
c'est
le
le même,
même.
la principale différence, c'est l'OS, quoi. Et c'est le truc qui nous donne quasiment, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais parlons plutôt des nouveautés, des choses qui ont été annoncées. Donc justement, il y a eu un petit relooking de Quicksilver. Voodoo, là,
De
de. Pardon, de
QuickTime.
QuickTime. Et là, on sent la fatigue de QuickTime.
Et oui,
Oui,
bah,
dis donc.
QuickTime a enfin décidé de se débarrasser de Pablo.
Nous
Pardon.
ne dirons pas qui était Pablo.
Ouais, c'est-à-dire que enfin vous allez avoir fourni d'office avec votre système un QuickTime qui ne sera pas bridé, hein, qui sera donc l'équivalent de ce que vous avez pour du QuickTime Pro à l'heure actuelle. Enfin, je suppose, hein, en
Après,
tout cas.
il y a une question qui me vient comme ça, que
Oui.
feront-ils de la version QuickTime de Windows? C'est une excellente
C'est une
question que
très
je me
bonne
pose
question.
aussi, vu que cette
Ouais,
nouvelle version de QuickTime a été visiblement totalement réécrite. C'est-à-dire qu'on va avoir enfin un QuickTime hyper rapide, hyper véloce. Et elle utilise, c'est-à-dire toutes les nouvelles technologies qui sont dans Snow Leopard, c'est-à-dire la puissance de calcul de Grande Centrale, de OpenCL, et comment dire, cette version utilise plein de technologies qui sont propres au système Snow Leopard. Quid de la version Windows, là j'ai un peu plus de mal à me demander qu'est-ce qu'ils vont faire. Enfin, disons que j'ai moins de réponses.
Mais encore une fois, je suis désolé de vous pousser, mais on n'a qu'une demi-heure. Et la dernière annonce est vraiment la plus importante sur laquelle je veux qu'on passe du temps. Il y a aussi au niveau du dock qu'il y a un petit changement aussi, qui va être très apprécié.
Ouais, c'est l'exposé à l'intérieur du dock ainsi que les nouvelles piles. C'est-à-dire que, un peu comme dans Windows 7, là je suis désolé,
Mais c'est
pour une
pas
fois
grave,
c'est
c'est pas grave.
l'inverse.
On a le droit de comparer. On a le droit de comparer, hein. Les comparaisons ne sont pas interdites.
Comme dans Windows 7, par exemple, une application peut avoir plusieurs fenêtres. C'est-à-dire, par exemple, pour Apple Mail, vous avez la fenêtre principale, vous avez une fenêtre où vous êtes en train d'écrire un mail, vous avez une autre fenêtre, etc. Et quand vous allez cliquer et rester appuyé sur l'icône du dock, vous allez voir apparaître toutes les fenêtres du logiciel et pouvoir glisser des éléments de l'une à l'autre sans problème. Donc ça va être un côté super pratique quand on veut glisser, déposer une photo d'une fenêtre à l'autre. Et la deuxième nouveauté, c'est dans les piles de documents. Vous allez pouvoir naviguer à l'intérieur, si vous avez des dossiers, des sous-dossiers, sans lancer le Finder. Voilà, c'est les deux grosses nouveautés du doc qui vont franchement être très pratiques.
Et sinon, je crois que c'est à peu près tout de ce qu'on a vu, à part le fait, ceci quand même, news assez importante, la taille que l'on va gagner en installant Snow Leopard, ce qui est absolument gigantesque hein, quand même.
Et 6 gigas.
Voilà, c'est-à-dire vous avez Leopard, vous installez Snow Leopard et vous gagnez 6 gigas. Voilà, alors je me demande...
Alors on va...
Oui. Hein, Vas-y.
Non, pardon, c'était quoi ta question ?
Je me demande qu'est-ce que ça représente ces 6 gigas ? Je veux dire, où sont ces 6 gigas qui me servent à rien sur mon Léopard que je les vire tout de suite ?
En fait, Vas-y.
Moi, je t'en prie.
Vas-y.
Non, vous n'allez pas vous faire des politesses pendant 3 plombes. Mathieu.
Tout ce qui est pour pouvoir.
C'est tout ce qui est Power PC. C'est-à-dire qu'on a souvent parlé de... Bah, quand tu télécharges une application, il y a souvent marqué qu'elle est Universal Binary. Ouais. Ce petit logo du yin et du yang blanc et bleu, ce qui veut dire que ton application fonctionne aussi bien sur un ancien Mac PowerPC qu'un nouveau Mac avec un processeur Intel. Mm-hmm. Et donc là, ce qu'ils ont fait, comme Snow Leopard ne fonctionne que sur les processeurs Intel, et bah, tout ce qui est ancien code PowerPC, etc., ils ont viré. Et hop, tu gagnes entre 40 et 50% de place par application.
Purée, c'est énorme. Mais rassure-moi, ça ne se chargeait pas dans la RAM tout ça. Parce que quel cas, c'est évident que ça va être beaucoup plus rapide.
Et si, parce qu'une application, elle était obligée de charger des éléments communs.
Ah oui, d'accord.
Pas forcément. Non, ça dépend. Si tu l'as lancée en Intel, elle était censée, je dis bien, se lancer en Intel exclusivement si tu étais sur Intel. Sinon, après, c'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes avec des bugs de Leopard. Quand ils lançaient une application, ils disaient, dis donc, mon Safari ou mon Mail, il est super lent. Et ils allaient voir dans la fenêtre d'information de ce logiciel et il y avait la petite case lancée sous Rosetta qui était cochée. Voilà. Donc voilà, c'est là que ça peut, je pense, faire de gros problèmes. Après, c'est vrai qu'à la vitesse d'ouverture, de chargement, ça peut vraiment changer quelque chose.
Sinon, c'est surtout vrai qu'il existait des applications type Xlimer qui permettaient de se débarrasser de ça, mais le problème c'est que bah, c'était entre guillemets du bricolage. Moi, je me suis retrouvé avec des applications qui ne se lançaient plus, mais bon, bah, ça c'est encore.
Voilà, et puis ça le fait que dans ton dossier des applications. Là, ce sera nativement dans tout le système. C'est ça la grosse différence. Et c'est aussi pour ça que le Finder visiblement a l'air extrêmement plus rapide. Que par exemple, quand tu fais des sauvegardes avec Time Machine, elles vont pouvoir être jusqu'à 50% plus rapides aussi. Donc il y a vraiment toute une grosse amélioration de rapidité, de finesse dans tout le système qui va vraiment être visiblement très agréable.
Et on sera en 64 bits aussi, c'est-à-dire que chaque application pourra utiliser jusqu'à 8 gigas de RAM.
Oui, si je ne dis pas.
Ce qui est intéressant quand on a un Mac Pro par exemple.
Mais si je ne dis pas de bêtises, il y avait quand même des éléments dans Leopard qui étaient 64 bits, hein, de toute façon.
Oui, mais c'était pas en entier.
Tout sera optimisé 64 bits. Voilà.
Donc, ça sera vraiment tout, oui.
Et vu qu'il nous reste 12 minutes, je vous propose de passer à la grosse annonce, celle à laquelle on ne s'attendait absolument pas, et bizarrement celle par laquelle ils ont commencé. Personnellement, j'aurais fait comme nous on le fait, c'est-à-dire des annonces de plus en plus grosses, histoire de finir en apothéose.
Tu parles de Safari 4 ?
Non, je parlais pas vraiment de Safari 4, parce que ça, on en a déjà vu plus ou moins la bêta. Justement, ça sera peut-être l'objet d'émissions futures. Mais je voudrais parler de l'upgrade des MacBook ou des MacBook Pro, d'ailleurs, il faut dire quoi maintenant ? Et je vais laisser la parole à Mathieu, vu qu'il était parti pour la prendre.
À moins que quelqu'un d'autre, non ?
Non, mais bon. Vas-y. Arrête de faire les politesses, vas-y, Franco.
Il y a tout un remaniement de la gamme d'ordinateurs portables. On s'attendait à avoir peut-être enfin un MacBook entrée de gamme abordable. Et en fait, non. C'est-à-dire que désormais, on a un seul MacBook. C'est le MacBook blanc à 950€, avec son processeur Core 2 Duo, ses 2Go de RAM, le MacBook blanc de base. Et qu'à la suite de ça, on a toute la gamme de MacBook Pro. C'est-à-dire tous les MacBooks en aluminium unibody. Et ça s'étale du 13 pouces au 17 pouces. Voilà. Donc ça, c'est un remaniement de nom, de style.
Donc le seul qui reste dans la gamme des MacBooks, tout seul, tel le canard boiteux, c'est le MacBook
exactement
blanc.
ça. Mais le MacBook blanc à 950 euros qui lui dispose d'un port FireWire 400 et qui est plus rapide que le MacBook Unibody à 1149 euros.
Mais attends, le MacBook Unibody, t'es sûr qu'il existe encore?
Je pense qu'il a été mis à jour.
Maintenant, je pense que ça s'appelle juste MacBook Pro et qu'il a, port FireWire 800.
Que le MacBook d'Unibody d'il y a 2 heures.
C'est ça. C'est un peu plus logique. Et sinon, en fait, truc quand même, c'est que au niveau des 13 pouces, je me rappelle pas si on a eu l'information, mais au niveau des 15 pouces, au niveau de la batterie, c'est celle du 17 hein, maintenant.
Si, alors là, c'est tout ce qui passe en 7 heures d'autonomie et batterie inamovible.
Voilà, que ce soit les deux
inamovible entre guillemets.
Oui. Tu vas pas le faire dans le train, quoi. Tu vas pas le changer dans le train. Voilà, c'est quand même vaguement inamovible. C'est pas non remplaçable, mais c'est inamovible. Voilà. On va se mettre d'accord sur les termes.
Si ça tient ses promesses, franchement.
C'est une durée de vie surtout qui est assez incroyable. Parce que pouvoir la recharger 1000 fois, je veux dire, moi je suis sur ma batterie à quasiment, 190 cycles de batterie. Et non, même pas, 150 cycles quasiment. Et j'ai déjà perdu facilement 10-12% de sa durée de vie. 12%.
Oui, mais là c'est 1000 cycles jusqu'à ce qu'elle meure. Donc du coup, non, c'est. Ou c'est 1000 cycles avant qu'elle commence à perdre un peu de son autonomie.
Là, visiblement, ce serait 1000 cycles avant qu'elle commence à perdre.
Ah ouais, quand même.
Et donc, en fait, on a, que ce soit les deux modèles de 13 pouces en métal, les 15 modèles MacBook Pro ou le 17 pouces, on a tout. On a partout donc, cette fameuse batterie qui assure 7 heures d'autonomie, ou 8 heures sur le 17 pouces.
7 heures constructeur, quand même.
Ouais, 7 heures constructeur. Mais même si ça reste 6 heures ou 5h50, c'est énorme.
Oui, c'est vraiment énorme.
Et l'histoire d'en parler avec nous, j'ai quelqu'un qui a participé à cette keynote hein, physiquement. Hein, c'est un certain Stuff MC de Pumcast qui, je l'espère, va répondre dans les secondes qui viennent. Sinon, ça, je vais être obligé de meubler, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc, malheureusement, sa méconnexion en cours, c'est pas bon.
Avec vous.
Voilà, mais donc il était à San Francisco, donc dans le Moscone Center, à suivre cette keynote et nous envoyer donc le. Eh merde, je viens d'être envoyé vers le répondeur, tant pis. Et donc il nous a envoyé en direct le clavardage et nous a donné les informations en temps réel, accompagné de quelques blagues de mauvais goût, hein, telles que par exemple un MacBook à $199, hein, bon, par exemple. Ah. Non, je ne sais plus quelle information fausse il nous avait envoyé, mais il y en avait 2 ou 3 comme ça, où on a senti notre cœur d'Apple fanboy se décrocher et notre carte bleue sortir subrepticement de notre poche arrière de jean. Mais bon, enfin, peu importe, c'est pas grave, il n'est pas disponible. Continuons donc. Apparemment, ils nous ont quand même annoncé, malgré le fait qu'il y a encore ce MacBook blanc, qu'ils avaient la ligne d'ordinateur portable la plus verte. Alors, est-ce que ça ne sonnerait pas quand même à terme soit le glas du MacBook blanc, soit est-ce que ça ne serait pas une version unibody plus petite qui sortirait incessamment sous peu, juste ils ne sont pas prêts? Qu'est-ce que vous en pensez?
Le MacBook blanc a l'air aussi compatible avec toutes les normes, sans flamme de brome, voilà, ces coques en polycarbonate hautement recyclé, sans PVC, etc. Energy Star et compagnie. Donc même le MacBook blanc est compatible, mais c'est vrai que, en fait, moi j'ai l'impression, je sais pas, vous me donnerez votre avis après, c'est qu'en fait ils voulaient dégager vraiment tous les MacBooks en plastique. Et du fait de la crise et du fait que ce soit le modèle qui se vend le plus actuellement,
ils
étaient obligés
garder.
De le garder.
Ouais. Je pense que c'est ça. Vraiment...
Ouais. Je pense qu'à terme, il y a un nouveau MacBook qui va quand même sortir, parce que mettre du Pro sur toute la gamme, bon, c'est bon pour l'ego des propriétaires, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment tenable au niveau marketing. Quoi. Ouais. Voilà, tu t'attends vraiment à avoir un truc qui soit moins cher, ils vont nous le sortir en même temps que quand Steve reviendra, histoire d'avoir qu'il ait du grain à moudre. Quoi.
Ouais. C'est vrai que par si contre, tu pouvais avoir...
Oui, vas-y, continue.
Ouais, c'était juste mon avis, ce serait avoir au moins 2 modèles en plastique, hein, qui commencent à 800 et l'autre à 950 comme c'est actuellement, puis après tu passes sur du pro. Pourquoi pas?
Mais voilà, parce que tout le monde soit en pro, ça paraît quand même assez bizarre niveau gamme, quoi.
Sinon, chose étrange, c'est l'adjonction d'un nouveau port auquel on ne s'attendait absolument pas, sur lequel on n'a eu absolument aucune rumeur. C'est pour y mettre une certaine carte mémoire.
Oui, puis ce qui m'étonne, c'est que ce soit du SD, c'est-à-dire un truc qui n'est pas propriétaire, qui est compatible à peu près avec 90% des appareils, et qui ne nous ait pas encore inventé un truc à la Sony façon monoristique.
Ouais, c'est ça, c'est une carte mémoire avec le connecteur du port dock de l'iPhone, c'est ça.
Oh. Oh, il faut acheter un adaptateur et tout, c'est ça.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
29 euros.
Tout à fait, c'est exactement ça. Non, mais j'avoue que c'est... Bah oui, c'est une très bonne idée, surtout que tous les caméscopes commencent à être sur support SD. Enfin, une grande partie des caméscopes, on va dire, d'entrée de gamme jusqu'à presque relativement haut, hein, quand même. Hein. Ça dépend le prix que vous voulez mettre et si, pour vous, la quantité de stockage est importante. Enfin, si vous avez besoin d'une importante capacité de stockage, ça marche aussi dans ce sens-là. Sinon, très souvent, c'est de la SDHC, hein, donc haute capacité, qui monte jusqu'à 8 gigas. C'est assez pratique de simplement prendre sa carte, la mettre dans l'ordinateur et ne pas avoir à se trimballer son câble, quand même. Donc,
mais normalement, le lecteur SD est censé être compatible avec le SDHC.
Oui, évidemment. Oui,
oui, je pense que maintenant, c'est un minimum, hein, vu les normes actuelles.
Ça me paraît logique, évidemment, mais...
Je suis d'ailleurs en train de regarder, vu que ce port SD remplace le port Express Card qu'il y a toujours eu sur les ordinateurs portables Apple depuis X années, je suis en train de regarder un peu à quoi servaient ces Express Cards, et en fait, à part à brancher des cartes mémoire ou de l'eSATA, qui est donc une norme de connexion des disques durs, il n'est vraiment intéressant que pour ceux qui cherchent de la performance au niveau du transfert ou des professionnels. Il y avait des cartes USB FireWire, mais c'était surtout pour rajouter des ports. Donc c'est un choix qui se défend. Après,
voilà, c'est qu'en gros, il y en a qui râleront. Le port que tu veux, si tu veux, t'as du SD, voilà. Puis voilà.
Après, les pinailleurs viendront dire que le SATA est plus rapide que le FireWire 800, mais au point où on en est, achetez-vous un Mac Pro de toute façon.
C'est un peu l'idée. Si vous en êtes à ce point-là, achetez-vous un Mac Pro, même un iMac, le cas échéant. Ah non, il n'y a pas de ESATA. D'ailleurs, c'est dommage. Oui, donc un Mac Pro, à la limite, si vous avez vraiment besoin de ce taux de transfert-là.
Voilà. Bah, et vu qu'il nous reste... avec les disques durs 1 Tera, ça peut être intéressant quand même.
Et vu qu'il nous reste 3 minutes, je sais c'est très court, mais c'est normal, c'était l'histoire de faire un résumé rapide. Je voudrais rapidement votre impression à tous, rapide dans l'ordre Angelus, ton impression générale, le truc que t'as préféré, et rapidement.
Bah, moi, le truc que j'ai préféré, c'est bien sûr Snow Leopard, parce que c'est vraiment l'annonce qu'on attendait au niveau... C'est un vrai truc de développeur. C'est une vraie bonne annonce parce que c'est pas cher, et puis c'est ce qui nous servira au quotidien, parce que bon, l'iPhone, c'est quand même si ça a bien marché, c'est pas tout le monde qui en a un, tandis que c'est tout le monde qui fonctionne sous les OS Mac, en tout cas pour les possesseurs de Mac.
D'accord. Mathieu ?
Quitte à choisir dans cette keynote, pareil, Snow Leopard, on s'attendait un peu à tout ce qui a été annoncé. Et un peu mitigé. Le début, ça s'annonçait bien, mais ça c'est comme un soufflé au fromage. Ça a bien parti, et puis d'un coup.
Et puis c'était dommage.
C'est bien redescendu.
Gugus.
Alors oui, moi j'en entends beaucoup être déçu de l'annonce de l'iPhone. C'est vrai que je l'attendais pas vraiment, vu que je comptais garder mon 3G pour y mettre le 3.0 qui arrive la semaine prochaine. Donc là, sur ce point-là, je suis très content. Après, je comprends que ça puisse en décevoir certains qui voulaient un truc qui fasse tout, même vous jouez de la guitare le matin et vous grattez les pieds. Mais bon, après, il y a bien sûr une keynote pour moi qui était très positive, avec un Snow Leopard que j'attends aussi de pied ferme, des MacBook qui sont une gamme assez solide maintenant, même si on attend un modèle entrée de gamme, et puis voilà quoi, un Apple assez en forme, je trouve, et ça augure que du très bon pour la suite.
Voilà, et ben moi je finirai avec mon analyse rapide. Personnellement, c'est effectivement, je rejoindrai Angelus et Mathieu Blanco quant au fait que pour moi, et ben c'est surtout Snow Leopard, quoi. C'est vraiment presque inattendu à quel point ça va vraiment améliorer les choses au point de vue de l'interface utilisateur, vu qu'on était censé ne pas avoir d'upgrade. C'est des petites touches par-ci par-là au niveau de l'interface, mais encore une fois, ne passez jamais sous Snow Leopard, parce que je sens que ça va être d'autant plus dur de revenir à son ordinateur PC au boulot. Voilà, bon, et bien sur ce, on se dit au revoir, on se dit à la prochaine, donc le mercredi pour le débat d'octet. Sinon là, il y a la chronique tech, il y a les news, il y a la matinale, et surtout, il y a MacJT à retrouver sur macjt.fr, et évidemment tout ça sur iTunes.